Ici, nous voilà maintenant au plein milieu de cette région, qu'on appelle la Chefela, cette région de colline. On voit admirablement dans la lumière de la fin d'après-midi, là-bas, cet anticlinal de Juda et cette route des patriarches qui circule au sommet, qui vient du nord de Sichem, où Abraham, pour la première fois, invoque le Dieu vivant, et puis Bethel, et puis ensuite elle continue, elle laisse Jérusalem sur le côté, comme on l'a bien vu ce matin, elle continue ensuite en direction de Hébron, et puis elle s'abaisse en direction de cette plaine au centre de laquelle est Beersheba. Et alors on voit admirablement la géographie du pays. Alors maintenant je voudrais vous faire rencontrer un personnage extrêmement important, un compagnon de route. Vous allez me dire quel est le premier verset du premier chapitre, du premier livre du Nouveau Testament.
Fils de David.
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et je voudrais que dans cette première journée, on voit ce verset-là qui noue indissociablement l'Ancien et le Nouveau Testament et qu'on rencontre ce personnage de David. Et David, je vous dirais que c'est pour des raisons pratiques que j'ai besoin de le faire rencontrer aussi à la BST. Parce que en France, je ne sais pas comment on fait les retraites. Moi, je présente la BST comme une retraite. Mais constamment, chez les gens qui sont venus parce qu'ils veulent faire une retraite, et alors ils me demandent quand est-ce qu'on va s'arrêter pour commencer à prier. Là, je commence par dire, bien sûr, il faut des moments où alors on arrête tout pour ne penser qu'à Dieu seul, et c'est un moyen de confesser justement son existence. Bon, mais ceci dit, il faut intégrer toute l'existence dans la prière. Et alors, un des grands maîtres en spiritualité, c'est David. Moi, je trouve qu'on n'attache pas assez d'importance au titre des psaumes qui lui sont attribués. Pas de David, quand, par exemple, il était en train de couper le manteau de Saül au fond de la grotte. De David, quand les gens de Ziph vont le dénoncer. De David, quand Nathan, le prophète, vint le trouver après son péché avec Bethsabée. Il priait tout le temps. Il ne faut pas attendre de trouver la position parfaite pour commencer à prier. Sans ça, on risque de ne jamais prier. Il faut des moments privilégiés, réservés à la prière uniquement. Mais ceci dit, c'est vrai que la vie est tellement artificielle que ce n'est pas facile. Hein. Mais quand on est en vacances en Terre Sainte, il n'y a pas de raison de vouloir toujours s'arrêter pour prier. On lit la parole de Dieu et puis on rencontre ici un grand maître en spiritualité, David. David, on ne peut pas le mieux le rencontrer qu'ici. David, c'est un maître en spiritualité aussi parce que ce n'est pas un tartuffe. Et la première des dispositions pour une bonne spiritualité, la pleine de santé, c'est laisser la vérité de Dieu balayer le fond de son cœur, comme le fait David. Connaissez le psaume 50, le tième, la vérité au fond de l'être. Voix mauvais, je suis né, crée en moi un cœur pur. On aura l'occasion de le rencontrer à d'autres endroits. Mais alors, ici, c'est l'endroit idéal pour rencontrer David. Vous connaissez tous l'histoire du combat de David et de Goliath. On a parlé tout à l'heure des Philistins et des Hébreux. Eh bien, le champ de bataille, le champ où ils se rencontrent, c'est cette région de colline entre la plaine côtière là, que les Philistins occupent et puis la montagne là-bas où sont installés les gens de la tribu de Juda et les Hébreux. Mais regardez au point de vue topographique. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre, ils se concentrèrent à Soco de Juda. Regardez la petite route qui est là-bas, il y a un parapluie pour les communications avec les satellites là-bas. Et puis à l'endroit où la petite route là disparaît, vous distinguez tant bien que mal un tel, c'est l'ancienne ville de Soco. Entre Soco et Azeka, on est dessus. On est au sommet actuellement de Azeka, à Ephes d'Amim. Saül et les Israélites se concentrèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe. Alors la vallée du Térébinthe, c'est cette vallée-là qui donne accès à la montagne aux environs de Bethléem. Vous voyez, de la plaine côtière à la région centrale, il y a comme trois grandes voies d'accès qui sont contrôlées chacune par une ville. Il y a la vallée du Térébinthe, contrôlée par la ville de Azeka, où nous sommes. Il y a la vallée de Sorek, dont nous avons parcouru quelques ravins, là, qui est fermée contrôlée par la ville de Beth-Shemesh, sur laquelle nous sommes passés tout à l'heure. Et puis plus au nord, une vallée très importante aussi, dont nous aurons l'occasion de parler une autre fois, la vallée d'Ayalon, qui est là, contrôlée par la ville de Gezer. Bon. En tout cas, ici, nous avons une des voies, la vallée du Térébinthe. Alors, les Philistins, dont la capitale est Gath. Et Gath doit se trouver dans ce tel qu'on aperçoit là-bas, un gros tel en pente. Les Hébreux sont dans la montagne, les Philistins traduisent par la vallée du Térébinthe et essayent d'escalader la montagne du côté de Bethléem. Et alors, de Bethléem, Saül, qui règne, a mobilisé toutes ses troupes pour empêcher les Philistins de s'introduire là. Alors, le petit David, vous rappelez, il habitait Bethléem. Il faisait partie d'une famille nombreuse. Et alors Samuel arrive avec sa corne d'huile pour le moindre roi. Et Dieu dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, il voit l'aîné des garçons, c'est le plus beau. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors tous les fils de Jessé défilent devant Samuel, c'est jamais celui-là. Il reste un petit dernier, personne ne pense à lui. Et ça, c'est une des grandes lois de l'élection dans la Bible. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans l'histoire, il va chercher dans un coin perdu quelqu'un qui mine de rien. Et alors, il est beau, attendez voir, j'ai vu un fils de Jessé de Bethléemite, il sait jouer, c'est un vaillant, un homme de guerre, il parle bien, il est beau, et Dieu est avec lui. David entre au service de Saül, et puis ses frères sont mobilisés dans l'armée de Saül, dans l'armée des Philistins, là, entre Soco et Azeka, à Éphès-Damim. Alors vous connaissez tous le récit, vous le lirez, mais mon but ici, vous voyez, c'est de vous faire rencontrer ce grand maître en spiritualité qu'est David. Et si tous les psaumes sont attribués comme ça en bloc à David, c'est parce que les psaumes, c'est toute la Bible sous forme de prière. Alors quand on a comme court-circuité, mais j'aime pas tellement ce mot-là parce qu'il est destructeur, mais quand on a fait le joint entre son existence et puis l'histoire sainte, comme toute histoire sainte là est exprimée sous forme de prière par les psaumes, alors on s'approprie le langage des psaumes, et puis avec David, on prie. Et on prie pas seulement quand on peut prendre la position parfaite, mais dans toutes les circonstances de l'existence, telle qu'elle se présente. Et au lieu de se cacher dans les arbres du jardin, quand on a fait le péché, comme vous vous rappelez l'histoire d'Adam et Ève, là, tellement que le bon Dieu lui-même ne s'y reconnaît plus, il est obligé de les chercher, où est-ce que tu caches, dit là Adam. Eh bien David, au contraire, alors laisse son être interpellé tout entier par Dieu, il laisse la lumière de Dieu balayer le fond de son cœur, et puis alors dans une repentance véritable, qui est bien autre chose que la culpabilité morbide, il rebondit dans l'existence. C'est un bon compagnon de route, David. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Puissions-nous prendre l'habitude de plus en plus de ne jamais lire le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Vous savez qu'une des premières hérésies de l'histoire de l'Église, c'est l'hérésie d'un certain Marcion. Au IIe siècle, il a prétendu non seulement supprimer l'Ancien Testament, mais supprimer du Nouveau Testament toutes les allusions à l'Ancien Testament. Unanimement, l'Église s'est levée pour condamner ce martionnisme. Et vous savez, nous sommes tous plus ou moins martionnistes. Et de quoi est-ce qu'on se prive quand on ne lit pas l'Ancien Testament? C'est à ce niveau-là qu'on est interpellé, on est content de trouver des compagnons de route là qui sont débordants de vitalité, comme David. Et ce que je voudrais vous faire rencontrer maintenant, c'est Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dès ce premier jour, lions indissociablement l'Ancien et le Nouveau Testament dans une lecture chrétienne de la Bible.